Et nous accueillons maintenant sur le plateau pour ce direct de la Courtine Rémi Adam, historien, qui a écrit l'ouvrage de référence, on peut dire, sur cet épisode historique. Merci Eric d'être venu sur le plateau. Vous vous êtes rencontré justement, toi, au moment où tu t'es intéressé à cette histoire où
eh ben, vous avez échangé ? Eh bien, en fait, moi, j'ai rencontré Rémi Adam avant qu'il le sache, parce que c'est grâce à son ouvrage que j'ai pu, moi, reconstituer l'itinéraire de mon grand-père et en tout cas l'histoire de mon grand-père. Donc, voilà. Et à chaque fois, je remercie Rémi Adam. D'ailleurs, il doit en avoir un peu marre, d'ailleurs. Je le remercie. voilà. Mais je tiens à chaque fois... À le dire, à le faire. Voilà. Ouais. Et merci en tout cas de m'avoir accueilli et d'avoir de courir en tout cas cet événement. Oui. Merci. Oui.
Merci Eric. À très bientôt. Rémi Adam, donc comme je t'expliquais, vous avez travaillé sur cet épisode. Qu'est-ce qui vous a amené à croiser cette histoire dans votre carrière d'historien ?
Alors, c'était avant le début de ma carrière, comme vous dites. C'était en tant qu'étudiant et en tant que lecteur de l'histoire de la Révolution russe de Léon Trotsky, qui y consacre 2 pages. C'est pas que j'ai laissé de côté les 1000 autres pages, mais ces 2 pages-là m'ont intrigué. Et puis j'ai creusé autour et je me suis aperçu qu'il y avait matière à trouver des choses intéressantes, non seulement sur cet épisode, mais sur la révolution russe et la guerre elle-même.
Mmh. Comment on explique justement que jusqu'alors cet épisode ait été aussi peu couvert par l'historiographie ?
Je crois que ça s'explique facilement par ce que ça met en scène. Hein. Les autorités françaises complices d'un massacre sur leur territoire. Du côté russe, bien sûr, une mémoire qu'on a voulu cacher. Je parle là des Russes blancs en France, bien sûr, qui ont évoqué depuis cette période-là les morts au chemin des dames, l'ancienne Russie, mais qui ne veulent pas évoquer comment la révolution a fait son travail de sape à l'intérieur du corps expéditionnaire.
Alors j'ai dit une ânerie tout à l'heure à ce micro avant que vous n'arriviez. J'ai dit que le camp de la Courtine avait été bombardé par l'armée française. Ce sont en fait des soldats russes qui ont procédé à l'assaut. Est-ce que vous pouvez réexpliquer cet épisode ?
Alors ce sera en combien d'heures d'antenne ?
Alors, est-ce que ce sont bien les Russes, finalement, qui ont donné l'assaut sur le camp de la Courtine ?
Oui, au sens formel du terme, ce sont des troupes russes qui ont donné l'assaut. Alors, à ce petit détail près qu'elles l'ont fait avec des canons de 75 fournis par l'armée française, des munitions fournies par l'armée française, éclairées par des projecteurs fournis par l'armée française, et je dirais, sur les conseils avisés, voire pressants, des autorités françaises, à Kerensky et au commandement russe.
Et donc, qui étaient ces Russes qui n'étaient pas solidaires, justement, de la majorité du régiment ?
Alors, il faut comprendre qu'une révolution, c'est un cheminement, c'est une évolution avec des rythmes différents. Et il se trouve que parmi donc, une partie du corps expéditionnaire, la révolution ne cheminait pas à la même vitesse. Hein, et le commandement avait gardé, on va dire, la main sur une partie de ses troupes. Et par ailleurs, et peut-être surtout d'ailleurs, une unité d'artilleurs qui passait en France à ce moment-là, donc qui n'avait pas côtoyé le corps expéditionnaire, qui ne le connaissait pas, qui n'avait pas d'amis, de camarades parmi eux, et a été utilisé justement pour utiliser ces fameux canons de 75. Après, c'est une autre discussion, mais en réalité, la décomposition des troupes russes, elle va continuer même après la répression, et y compris parmi les troupes qui ont mené l'assaut. Ce qui montre justement que la révolution, elle chemine, elle avance avec son propre rythme. Et la première brigade, qui était la plus contaminée, si on veut prendre les termes des autorités russes et françaises, qui était davantage composée d'éléments venant de Moscou, des villes, d'éléments ouvriers, avait, disons, un temps d'avance, du point de vue révolutionnaire, au moins, sur... la majorité des troupes de la 3e brigade qui étaient à majorité paysanne.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé justement à la Courtine et ce qui passera par la suite en Russie avec la guerre civile ?
Oui, le premier à le faire, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les pages que Léon Trotsky consacre à cet épisode, lui voyait une expérience de laboratoire dans cette mutinerie, au sens où on y retrouve tous les éléments chimiques. En quelque sorte, c'est lui qui faisait la, la parabole avec ceux de la Révolution et que la politique de l'état-major français préfigurait justement la politique de l'État français vis-à-vis de la Révolution quelques temps plus tard, c'est-à-dire l'intervention militaire armée en nombre assez réduit en réalité de soldats français qui sont partis là-bas, mais par contre le soutien matériel, le soutien financier, le soutien politique aux armées blanches, lui, était conséquent. Et de ce point de vue-là, effectivement, on peut tout à fait tracer le parallèle.
Ce que je disais tout à l'heure à Eric Molodzov, ce qui frappe en tout cas quand on se penche sur tous les ouvrages qui ont été publiés autour de cette histoire, c'est l'iconographie qui est très émouvante, voire même bouleversante à certains endroits. Comment s'explique d'une part qu'il y a tant de sources iconographiques sur cet épisode et en quoi justement en tant qu'historien vous travaillez avec ce matériau?
Alors, il y a plusieurs temps dans ces sources. Il y a les soldats russes avant qu'ils se révoltent. Donc, ils ont fait l'objet d'une propagande. Ils ont été utilisés par les Alliés comme modèle. Ils ont été donnés en exemple aux soldats français et à la population pour dire voilà, c'est des troupes fidèles, loyales du tsar, obéissantes, croyantes, qui viennent sauver la France en gage de l'alliance franco-russe. Donc on a fait beaucoup de reportages, beaucoup d'images, des films, des photographies. Bon, tout ça dure jusqu'à leur révolte. Parce que l'iconographie dont on dispose aujourd'hui, elle n'a pas été publiée à l'époque pour l'essentiel. Hein. Donc elle a été censurée à l'époque. Bon, et ensuite, il y a quand même depuis quelques années quand même, c'est tout l'intérêt du travail aussi de l'association La Courtine 1917 et des publications récentes. Il y a d'autres souvenirs qui ont émergé, d'autres images, éléments intimes, on pourrait dire, personnels. Et encore, j'allais dire, à l'occasion de cette rencontre, puisque ce matin, une dame est venue en disant que son grand-père avait été déporté en Algérie et qu'elle-même habite à une trentaine de kilomètres de là aujourd'hui.
Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en tant qu'historien, vous continuez à travailler sur cette histoire? Est-ce qu'il y a encore des sources que vous découvrez, de nouveaux angles pour en parler? Est-ce que c'est un sujet que vous avez définitivement terminé de couvrir ou sur lequel vous continuez de travailler, d'explorer?
Je crois qu'en histoire, comme dans d'autres domaines, le définitif n'existe pas. D'abord parce que d'autres pourront se l'approprier, y compris le traiter sous un angle qui leur appartient. Donc ça, je l'espère, que d'autres se saisissent de ce sujet. Ça commence à être un petit peu le cas, parce que j'étais un petit peu seul pendant des années là-dessus quand même. Ensuite, il y a certainement des choses, là aussi on parle de souvenirs, d'aspects personnels, intimes, en Russie même, puisqu'on commence à ressortir un certain nombre de documents et de souvenirs personnels qui donnent un éclairage nouveau et qui peut-être nous permettront aussi de savoir un peu mieux ce que sont devenus ces soldats, par exemple, à leur retour en Russie soviétique. Ça, c'est un aspect important des choses. Ces deux dernières années, je crois avoir aussi éclairé un épisode peu connu de cette histoire, qui est l'enfermement des mutins, en tout cas de ceux considérés comme des meneurs de la mutinerie de la Courtine, dans une jolie île de l'Atlantique qui s'appelle l'île d'Aix, qu'on peut visiter aujourd'hui au fort Liedo. Ce fort et cette île a la particularité d'avoir aussi, quelques dizaines d'années plus tard, servi de lieu de rétention forcée aux dirigeants du FLN algérien. Donc vous voyez aussi, il y a des histoires qui se télescopent.
Alors, c'est donc le centenaire de cette histoire du camp de la Courtine, des Russes de la Courtine, c'est aussi et surtout peut-être le centenaire de la Révolution russe. En tant qu'historien, vous, quel regard vous portez sur ces commémorations et donc les débats qui ont pu agiter? Comment est-ce qu'on peut commémorer la Révolution russe aujourd'hui? Comment vous positionnez là-dessus? C'est quoi une posture juste pour vous?
Oui, enfin, moi, je ne porte pas simplement un regard d'historien sur ces questions-là. Je crois que c'est des sujets qui méritent d'être traités avec la passion nécessaire et l'engagement nécessaire. Au fond, on retrouve aujourd'hui les mêmes discussions qu'il y a un siècle ou qu'il y a 90 ans. On a encore un regard, j'allais dire, celui de la contre-révolution des Blancs. Et c'est vrai aussi pour l'histoire des soldats russes en France, puisqu'il y a une autre association qui existe et qui est portée par les anciens officiers, par les descendants de ceux, en tout cas, qui se réclament de l'ancien régime, encore aujourd'hui, qui va sur les tombes avec un pop, des encensoirs et des hymnes à la Sainte-Russie. Mmh. Bon, donc ça, ça existe toujours aujourd'hui. Et puis... Et puis la révolution russe, ben, il faut qu'elle... elle a ses adversaires, mais ce n'est pas une surprise qu'elle a ses adversaires. Mmh. Voilà. Elle a aussi ses partisans et j'en suis.
Alors, nos amis de Radio Pays de Guéret viennent d'arriver. Je vous rappelle qu'on est en direct sur les ondes de Radio Vassivière et de RPG toute la journée. Vous voulez, si vous voulez, peut-être vous installer. Comme ça, on pourra discuter tous ensemble. Vous parlez d'engagement. Donc, l'historien n'est pas comme ça au-dessus de la mêlée, comme en tout cas, vous voudrez le croire certains. On peut faire du travail d'historien, une histoire sérieuse, tout en étant engagé et en gardant une subjectivité.
Je crois que c'est un devoir sur des sujets comme ça, bien sûr, mais certainement sur d'autres sujets. Ça, c'est une discussion quasi philosophique sur le travail de l'historien. Mais justement, je ne suis pas qu'historien. Je suis aussi quelqu'un qui milite pour un certain nombre d'idées. Et ça n'enlève rien, je crois, au sérieux de l'étude des archives et à mettre ça sur la place publique, y compris à en débattre. Mmh. Voilà, c'est la meilleure façon justement d'affronter ces idées à celles des autres.
Mmh. Précisément, par exemple, sur la lecture des événements de la Courtine, il y a des débats, des controverses, en tout cas des interprétations différentes historiographiques sur ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes opposé, par exemple, à certains autres historiens sur la lecture des faits ou leur interprétation ?
Alors, je bataille avec assez peu d'historiens puisque je suis comme un des rares à avoir vraiment travaillé sur les archives. Donc après, je travaille sur des gens qui se saisissent du sujet. Je dirais que j'ai construit mon histoire du corps expéditionnaire russe en France en opposition, évidemment, à celle qui avait existé avant la Deuxième Guerre mondiale, donc aux ouvrages qui avaient été écrits par Pierre Poitevin, comme j'ai dû l'écrire sous la dictée de l'état-major français, en quelque sorte. Il constitue une sorte de... Quelqu'un l'a dit à ma place, un plaidoyer pro-domo du général Combi, et de la version qu'on pourrait qualifier d'officielle, mais aussi avec une vision de la révolution russe et de ses soldats qui sont considérés comme des mougiques, ignorants, paresseux, on disait pas fainéants à l'époque, et des buveurs d'eau de Cologne ou de tartines de dentifrice. Bon, un regard à milieu, évidemment, de ce que j'ai trouvé, moi, dans les archives elles-mêmes, pourtant les archives militaires, les archives de la censure, et à commencer... Ça a été quand même le cœur de mon travail. Les archives du contrôle postal, c'est-à-dire les lettres de ces soldats. C'est-à-dire c'est une histoire qui s'est construite à échelle d'hommes, avec leurs pensées, avec leurs sentiments, avec leurs réactions. Ce n'est pas une série d'archives du commandement mis bout à bout. En tout cas, c'est le croisement entre les deux.
On parlait de l'engagement politique dans l'écriture de l'histoire. On observe depuis quelques années que Vladimir Poutine a la volonté de se ressaisir de l'histoire russe et de l'histoire soviétique après le passage douloureux de la fin des années 90. Est-ce que vous pensez, en tant qu'historien, que les autorités russes vont publier des documents ou vont réécrire l'histoire dans leurs propres intérêts et que ça nuira au final à la connaissance de ces événements ?
Moi, au final, je suis un optimiste. Je pense que la vérité, comme d'autres choses, l'emportera. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été publiées. Ça, c'est pas un problème de documentation. Beaucoup de choses ont été publiées depuis des dizaines d'années, y compris sur les soldats russes en France. Il y a eu des choses publiées en Russie. Ce qui est important, effectivement, c'est le regard, c'est l'interprétation. Et bon, vous parlez de Poutine, mais il y a tout un courant intellectuel aujourd'hui... en Russie, pas qu'en Russie, mais enfin, puisque la question porte sur la Russie, qui, à travers le prisme du nationalisme, parce que la relecture des événements de la Révolution ou des mutineries, c'est justement mettre en avant tous les aspects fédérateurs, les aspects de la Russie des combattantes victorieuses sur les champs de bataille, de l'amitié franco-russe, comme l'envoyé de l'ambassade l'a rappelé hier et aujourd'hui en se présentant ici. Ils sont capables, effectivement, de s'emparer de cette mémoire et de la travestir. Hein.
Mais est-ce que, du coup, ça ne fera pas de l'image de ces buveurs d'eau de Cologne, finalement, des héros d'une Russie conquérante, d'une histoire de la Russie dont il faut se réjouir, vu par ce pouvoir russe? Est-ce que ça n'ira pas à la cause de la véritable histoire de ces mutins?
Bah, c'est des idées qu'il faut combattre. Donc on verra qui l'emportera, encore une fois. Moi, je ne pense pas que ça soit cette vision-là qui à terme, l'emportera. Effectivement, on veut gommer ainsi le fossé de classe qu'il y avait entre les officiers et les soldats, par exemple, bon, qui est l'un des moteurs de la révolution russe elle-même. Alors en les présentant comme tous unis derrière le drapeau, comme ici, on veut nous présenter les soldats derrière leurs officiers. On ne dit plus la fleur au fusil, parce que ça, c'est une expression qui est derrière nous. Mais la façon dont ici aussi un certain nombre d'historiens réécrivent l'histoire des mutineries, de la guerre, essayent de faire passer justement les soldats comme ayant consenti très largement à la guerre sous tous ses aspects, et ne voyant dans les mutineries, dans les révoltes, qu'un aspect d'humeur ou de rejet de la façon dont les offensives étaient menées, mais pas des offensives elles-mêmes, et encore moins de la guerre. Et niant tout caractère politique également à un certain nombre de faits. Et là aussi, c'est évidemment une question de point de vue. La politique, pour moi, elle peut se trouver partout. En tout cas, on peut interpréter politiquement bien des faits. Quand en 1789, les femmes réclament du pain, on peut dire que c'est pas politique. Mais au fond, c'est toute la Révolution française qui est derrière ça. Quand les ouvrières et les femmes de Pétrograd, en 1917, réclament là aussi du pain, des meilleures conditions de travail, ou la paix, ou le retour de leur mari, de leur frère, eh bien là aussi, c'est finalement tout le déroulé de la révolution russe qui s'annonce. Et la politique, elle viendra s'ajouter là-dedans, elle viendra s'y engouffrer, parce que en Russie, on aura les soviets, on aura une tribune, on aura des assemblées où se confronteront justement les différentes forces politiques.
Excuse-moi, dans l'histoire de cet épisode, la courtine, et puis après on va vous laisser rejoindre le cola, vous avez encore 10 minutes. on peut faire une lecture aussi libertaire de ces événements, parce que on sait qu'en tout cas, la révolution russe n'était pas que l'apanage des bolcheviks, qu'en tout cas cet héritage-là a été aussi occulté. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Ouais, on peut faire toutes les lectures qu'on veut. Hein, après, le courant qui l'a emporté en Russie, c'est le courant bolchevique, mais une partie du courant libertaire ou anarchiste, d'ailleurs, s'est fondue dans ce mouvement, au début surtout, d'ailleurs, mais certains plus durablement, comme Victor Serge, qui venait, lui, d'une tradition anarchiste quand il était en France. Et parce qu'il y a bien des débats qui sont apparus en réalité bien plus tard, même sur Kronstadt, une partie du mouvement anarchiste a soutenu l'assaut contre Kronstadt. C'est 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, que d'autres polémiques, d'autres débats sont revenus. Mais ce qui est intéressant justement dans l'histoire des soldats russes en France et de leur révolte, c'est que d'une certaine façon, cet épisode s'est déroulé à l'abri, on pourrait dire, de la propagande, qu'elle soit bolchevique ou libertaire ou d'autres forces politiques, puisqu'elle était un peu en cercle clos.
Loin des avant-gardes.
Loin, effectivement, d'être en contact avec les partis, les forces vives de la Révolution, et malgré tout, l'évolution, encore une fois, qui se mesure dans la correspondance de ces soldats, elle pousse dans ce sens-là, en tout cas. Elle est bien sûr tirée par la révolution elle-même et la Russie, hein, et l'idée de rapatriement, etc. Donc chacun y verra ce qu'il veut voir dans cette conscience des soldats. Mais en tout cas, il y avait une confiance et un enthousiasme pour la révolution qui lui, est indéniable.
À la même époque, à l'autre bout de la Creuse, à Boussac, on avait l'expérience coopérative. Pierre Leroux, qui a formé une partie de la pensée sociale en France à partir d'expérimentations en Creuse. Est-ce que les événements de la Courtine et tout l'aspect coopératif, l'organisation interne que les mutins ont trouvé, est-ce que ça a quelque part trouvé un écho dans cette pensée sociale française et auprès de personnes qui se situaient à quelques dizaines de kilomètres de cet endroit-là? Est-ce qu'on on a une trace d'un impact dans la pensée? Est-ce que ces événements sont cités?
Bon, je ne pense pas qu'on trouve des traces comme sur le sable qu'il suffirait de suivre. Ou plus exactement, s'il y a eu des traces, les vagues les ont effacées depuis, et les marées successives depuis quelque temps. C'est plus généralement l'influence de la Révolution russe. Parce que de ce point de vue-là, la révolte des soldats russes, c'est un épiphénomène, on pourrait dire. Alors, représentatif d'un mouvement plus général, ça, c'est ma façon de voir les choses. Localement, ça, il faudrait peut-être demander aux historiens régionaux pour savoir si cette histoire a pu inspirer un certain nombre de militants locaux. Moi, je ne crois pas, parce que cette histoire est retombée dans l'oubli très vite et que ce qui a pu en être décrit par les historiens de l'après-guerre n'allait pas du tout dans ce sens-là. Donc, il faut regarder les choses de plus loin du point de vue de l'influence de la Révolution d'octobre sur... sur l'ensemble, on va dire, du courant révolutionnaire, libertaire, communiste, etc. Mais ça, c'est une discussion à part entière.
On va pas tarder à vous laisser, à vous libérer, parce que vous allez bientôt reprendre le colloque. Votre intervention va porter sur des portraits et correspondances de mutins. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Peut-être parmi ces portraits, ces correspondances, est-ce qu'il y a une figure sur laquelle vous allez insister en particulier, ou qui vous touche, ou qui éclaire ce mouvement plus particulièrement?
Alors, je parlerai d'Ivan Baltaïs, notamment, qui est moins connu que celui qu'on voit en photographie au moment de l'arrestation des derniers dirigeants du Soviet de la Courtine. Parce qu'on dispose de lettres de lui qui nous éclairent sur le personnage, sur sa pensée, sur également le crédit qu'il avait dans le corps expéditionnaire. Il était en réalité le premier dirigeant au printemps de la révolte des premiers soviets. Il l'était de nouveau à la Courtine. Il a été arrêté en fin juillet 1917 à la suite, on va dire, d'un guet-apens dans lequel il s'est laissé prendre un petit peu de la part des autorités russes. Hein. Mais il n'a jamais abdiqué ses idées. Et lui, il a été aussi enfermé donc au Fort Liedo sur l'île d'Aix et rapatrié parmi les derniers. Et tous les témoignages de l'état-major aussi, qui le surveillaient de très près, qui surveillaient son courrier, qui surveillaient le courrier qu'il écrivait, le courrier qu'il recevait, témoignent de sa droiture et de l'influence qu'il exerçait, même sans contact, on peut dire.
Merci Rémi Adam d'être venu témoigner à ce micro. On va vous laisser regagner le colloque. Peut-être juste, en tout cas, si les auditeurs veulent consulter vos ouvrages, en tout cas vos dernières publications à ce sujet. Et en tout cas, c'est le livre peut-être plus important, plus conséquent, qui est d'ailleurs en vente ici à l'accueil, s'appelle...
Alors, il s'appelle 1917.
Ça, c'est le dernier.
Le Limousin et la Révolution russe, regard inversé.
Donc, sur lequel vous avez écrit un article.
Dans lequel j'ai écrit un article. Sinon, je pourrais inviter ceux qui peuvent voir l'exposition, qui est consacrée à l'histoire du corps expéditionnaire russe, et la brochure de cette exposition. Sinon, on peut se reporter dans les bonnes librairies à mes ouvrages, mais on peut citer en tout cas 1917, la révolte des soldats russes en France, aux éditions Les Bons Caractères. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité.
Merci à vous.
Au revoir.
Et bon colloque. Et on va faire une petite transition musicale avant de peut-être se réinstaller, de réinstaller le studio à un autre endroit, parce que j'ai peur qu'on dérange les conférenciers. Et on va écouter Tim Buckley, une chanson pacifiste, No Man Can Find the War.
Scarlet skull and distant game. Bayonet hand, jungle grin. Nightmares dream by bleeding men. Lookouts tremble on the shore, but no man can find the war.
tape recorder's echo scream. Orders fly like bullets stream. Drums and cannons laugh aloud. Whistles come from ashen shroud. Leaders damn the world and roar. But no man can find the war. Is the war across the sea? Is the war behind the sky? Have you each and all gone blind? Is the war inside your mind? Humans weep at human death. All the talkers lose their breath. Movies paint a chaos tale. Singers see and poets wail. All the world knows the score. But no man can find the war. But no man can find the war.